À l'exception d'Adam et Ève, nous avons tous commencé notre existence dans le noir, durant plus ou moins 9 mois. Et puis un beau jour, nous avons vu le jour. Et ce passage ne s'est pas fait tout seul, ni sans douleur. La maman qui est à la tribune s'en souvient peut-être du reste. Mais au terme, nous avons réellement vu le jour. Et cela est devenu naturel pour nous. Analogiquement, quand on est dans une famille catholique, les choses vont de soi. Et on ignore ce que c'est que de ne pas croire en Dieu, ne pas voir que Dieu est source de la vie, qu'il est envoyé de Dieu. Notre aveugle, en venant au jour, n'a pas vu le jour. Il a eu beau venir à la lumière n'est pas venue à lui. Et privé de lumière, il est devenu mendiant, mendiant de la lumière. Quelque chose en lui manquait, quelque chose n'avait pas été achevé en lui. Et puis, comme à la dérobée, ce qui est le cas puisque Jésus se dérobe de la lapidation dans le temple juste avant l'épisode que nous venons d'entendre. Comme à la dérobée, la lumière a fini par venir jusqu'à lui un jour. Cette lumière est un homme. Cet homme est Jésus. Et Jésus est venu achever ce qui ne l'avait pas encore été. Dans la vie monastique, je crois que ça vaut à peu près pour toutes les formes de vie monastique, lorsqu'on reçoit l'habit, en tout cas chez les bénédictins, le Père Abbé a cette formule « Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé ». Nous y sommes. Dans nos traductions grecques et latines et vernaculaires, nous comprenons que l'homme aveugle était, entre guillemets, simplement privé de la vue, si je puis dire. C'est-à-dire que les yeux qu'il avait ne voyaient pas. Peut-être il n'avait pas de pupille. Seulement, dans la langue de Jésus, l'araméen, le mot que l'on rend par œil, ein, signifie aussi trou. Dès lors, il est permis de penser que cet homme n'était pas simplement aveugle par déficience de la vue, mais par absence d'yeux. Peut-être est-il né sans yeux. Ça arrive. Et clairement, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait de quoi pouvoir voir. Non point seulement la vue, mais l'organe qui permet de voir. Alors Jésus fait de la boue et la place dans les orbites oculaires vides. Et nous découvrons alors le prolongement de la création. Ce que les pères relèvent dans certaines homélies, du reste. Nous découvrons le prolongement de la création dans laquelle l'homme fut créé à partir de la boue. Mais alors Jésus pose un acte créateur, ici, et pas un acte de guérison ophtalmologique, si je puis dire. Mais alors, si c'est bien le cas, on découvre qu'on n'a plus affaire à un homme, mais à Dieu. Le Créateur est aussi Sauveur, et réciproquement. Et Dieu qui vit dans le présent ne cesse jamais de créer et de sauver. Et comme le précise Jésus, le Père est toujours à l'œuvre, le Père continue de créer dans son Fils Jésus. Mais si Dieu crée, alors il ne peut plus être question de Shabbat, car Dieu est maître du Shabbat. Le Créateur a autorité sur le Shabbat. La question du péché est largement abordée ici. Peut elle aussi recevoir un éclairage philologique, peut-être intéressant. Péché en grec se dit amartano, chata en hébreu ou en arabe, c'est le même mot. Et étymologiquement, ce mot signifie manquer le but, manquer la cible, comme un arc infidèle, dit l'Écriture, manque le but. Le péché, ça n'est donc pas dans ce sens-là manquer une pratique. La pratique est juste un signal qui indique le but. Bien souvent, on prend la pratique pour le but. Ce qui est une tendance qui rend un peu pharisien du reste. Et manquer le but, cela se peut faire de deux manières, soit volontairement quand on voit ce qu'on fait, soit involontairement quand on ne voit pas ce qu'on fait. L'aveugle né se trompait de direction involontairement. Les pharisiens se trompent sciemment. Ils voient que cet homme nommé Jésus vient de poser un acte de recréation, de continuation de la création. Mais ils refusent de le confesser. Leur péché demeure donc. Ils ont des yeux et ils s'en servent pour manquer le but, pour pécher. L'aveugle guéri voit désormais, et il semble même que non seulement sa vue devient réelle, mais sa langue aussi a l'air de se délier. C'est extraordinaire, vous n'avez aucun autre aveugle dans le Nouveau Testament qui a un discours théologique pareil. C'est très impressionnant. Et en effet, il en profite pour tenir tête aux pharisiens. Cet homme est devenu libre. Authentiquement. La liberté, c'est pour aller vers le bien. C'est pas pour faire ce qu'on veut. Hein. Nous sommes faits pour le bien, nous sommes libres quand nous allons vers ce pourquoi nous sommes faits. Il est devenu libre, il pense par lui-même. Du reste, ses parents disent, interrogez-le, il sait ce qu'il a à dire. Peut-être parce qu'ils ont peur. Mais le fait est qu'il est devenu libre, cet homme. Il affirme, il s'affirme face à l'orgueilleuse autorité pharisaïque. Mais il n'oublie pas ce qui vient de lui arriver. Souvent dans nos vies, nous oublions la visite du Seigneur. Le mot « souviens-toi » est un des mots les plus répandus dans l'Écriture sainte. « Souviens-toi, Israël. » Il n'oublie pas ce qui vient de lui arriver et il confesse d'abord un prophète, puis le Fils de l'homme et le Seigneur. Sa confession est un peu progressive dans le dialogue. Il confesse sa foi en Jésus qui vient de lui créer des yeux tout neufs. Même si l'hypothèse que j'ai formulée pourrait ne pas être la bonne, n'empêche que ses yeux, ils sont tout neufs. Il voit. Alors, comme je l'ai dit en commencement, tout cela ne s'est pas fait sans douleur. Il est d'ailleurs frappant de constater qu'à quelques heures de sa passion, L'exemple que Jésus prend pour parler de ce qu'il va vivre n'est pas celui de la guerre, c'est celui de la femme sur le point de mettre au monde en Jean 16, 21. C'est l'image qu'il prend pour exprimer ce qui va lui arriver. Et c'est aussi ce que figure cette piscine de Siloé, dont l'eau a pu donner la vie aux yeux de boue formés par Jésus, sous l'action discrète de l'Esprit-Saint qui vivifie. Nous le chanterons dans le credo tout à l'heure. Vivificantem, vivifiant, c'est-à-dire qui fait la vie, en latin. Oui, cette piscine est une femme, et cette femme, c'est l'Église, vers laquelle on est conduit par la main comme un aveugle, comme un catéchumène par son parrain ou sa marraine, et dont on ressort voyant la vraie lumière qui illumine tout homme, Jésus, le Christ. Amen.